monde au féminin. Le monde au féminin. Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Kadiatou Traoré, journaliste à la Voix de l'Amérique pour le service Bambara, spécialiste du Mali, pays africain rural. Merci beaucoup, Kadiatou, d'être avec nous.
Merci Nathalie de m'avoir donné l'opportunité encore une fois de venir parler des femmes maliennes.
Alors, on va parler justement des femmes rurales et de la production alimentaire en Afrique, à savoir quels progrès ont été réalisés, quels sont les obstacles. Et je vais peut-être commencer par quelques chiffres. Moi, je vais peut-être apporter des chiffres au plan mondial. Peut-être que vous, vous rentrerez plus dans les précisions au niveau du Mali, hein, du pays que vous connaissez bien, votre pays.
Absolument.
Alors, donc, les chiffres au plan mondial. Selon ONU Femmes, la discrimination basée sur le genre est une cause et une conséquence majeure de la faim et de la pauvreté. 60% des personnes souffrant chroniquement de la faim sont des femmes et des filles. En moyenne, les femmes constituent 43% de la main-d'œuvre agricole des pays en développement. Si elles bénéficiaient du même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient accroître les rendements de leurs exploitations agricoles de 20 à 30%, dit ONU Femmes, ce qui est énorme, hein, 20 à 30%. Près de 70% des femmes employées en Asie du Sud travaillent dans le domaine agricole et elles sont plus de 60% en Afrique subsaharienne. Donc majoritaire, hein, tout simplement. Moins de 20% des propriétaires fonciers dans le monde sont des femmes, ça c'est dans le monde. Elles sont 15% en Afrique subsaharienne et elles représentent moins de 5% en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest. Ce qui est intéressant, ça c'est, on va dire, peut-être plus dans les pays arabes. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous inspire dans un premier temps, Kadiatou, tout ça, avant vous-même d'apporter peut-être quelques chiffres sur le Mali?
Mais ça veut dire, Nathalie, simplement que les femmes sont en majorité planétaire. Ça, c'est évident, c'est une évidence qui a été prouvée partout. Et quand on regarde aussi les chiffres que vous venez de lire, la majorité de ces femmes se retrouvent vivent dans les milieux ruraux et malgré l'effort qu'elles fournissent pour faire avancer, pour lutter contre la faim, pour lutter contre la pauvreté, et elles en souffrent. Elles sont les premières à souffrir de cette pauvreté et de cette malnutrition et puis de cette faim. En plus de l'effort fourni, elles souffrent de cela. Cela nous amène à beaucoup de questions. Pourquoi les femmes qui travaillent autant dans ce milieu rural, elles sont en nombre, suffisamment en nombre par rapport aux hommes, et après elles souffrent, c'est elles-mêmes qui souffrent. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la capacité de gérer à bien leur production. Ça veut dire qu'elles sont
Il y a
des obstacles. Elles sont sous-employées. Ouais. Elles sont sous-rémunérées et elles ne sont pas totalement des actrices principales de cette production.
Dans les chiffres par rapport au Mali, chaque semaine, les Maliennes consacrent 9 heures à collecter de l'eau contre 1 heure pour les hommes. C'est-à-dire que plus elles passent du temps à ce type de tâches, moins elles peuvent finalement s'épanouir, notamment dans l'agriculture, etc.
Dans tous les secteurs.
Oui.
Dans tous les secteurs. Les Maliennes sont confrontées à ce problème d'eau, d'autant plus que le Mali se trouve dans une zone sahélienne, une zone sèche maintenant et qui souffre, qui est en train de souffrir et qui continue de souffrir même des effets environnementaux comme le manque de pluie, la sécheresse, des sécheresses qui sévissent. Et on n'est pas en train de travailler sur ça. Et donc, le problème s'accentue de jour en jour. On est beaucoup plus confronté à ça, à cette histoire de manque d'eau au Mali. Le fleuve Niger qui traverse le Mali de long à large est en train de se tuer à petit feu. Il y a des endroits, en tout cas au Mali maintenant, qu'on peut traverser maintenant le fleuve à pied sans problème. Alors qu'avant, il y a 10 ans, regardez, à 10 ans, c'était pas comme ça. On avait de l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le problème est lié, ça tient au même fil.
parole de femme.
Au Bénin, de nombreuses femmes des milieux ruraux n'ont pas accès aux fonciers et sont exclues des successions, comme dans beaucoup d'autres pays, n'est-ce pas? Selon notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, qui a tendu son micro à Blandine Sintonji, qui reçoit des plaintes au centre de conseil juridique.
C'est vrai que les familles s'interposent des fois et les femmes aussi se laissent faire. C'est surtout des femmes qui ne sont pas informées du contenu de cette loi, surtout par rapport à la succession. Sinon, nous recevons beaucoup de femmes au centre qui viennent dire que le mari est décédé, la famille est venue tout ramasser. On ramasse même jusqu'au jouet des enfants.
Le pire survient lorsque la femme dans ces milieux ruraux dispose de moyens pouvant lui permettre de s'acheter une parcelle. Antoine Wézy est juge au tribunal. Tribunal de première instance. Il traite tous les jours de ce genre d'affaires.
On a vu dans certains dossiers où la femme, avant d'acquérir un bien immeuble, en informe son époux et c'est l'époux qui l'accompagne le jour de la conclusion de la convention de vente, qui soit témoin, ou bien carrément c'est l'époux qui signe comme acquéreur et la femme comme témoin. Et c'est lorsque il y a contestation, cela se révèle que, au fait, c'est la femme qui a réuni les moyens pour acheter le domaine.
À la Fondation Konrad Adenauer, on pense que l'usance de l'heure reste la mobilisation de tous.
À la fin de tout, c'est toujours les lois sur lesquelles il faut adapter et lesquelles il faut aussi consulter. Créer un dialogue qui n'existait pas avant et deuxièmement, faire aussi un état de lieu de ce qui existe déjà.
La problématique de l'accès difficile des femmes au foncier est une question bien inquiétante qui semble transcender toutes les lois qui existent à cet effet. L'intensification des séances de sensibilisation et l'application de la loi reste l'arme à savoir manipuler pour permettre aux femmes placées au foncier. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Kadiatou, ce qui se passe au Bénin, on le retrouve au Mali de la même manière?
Oui, je dirais qu'on le retrouvait au Mali, mais les choses sont d'autant plus en train de changer pour le Mali. L'année dernière, la loi, la fameuse loi sur le quota de 30% a été votée par l'Assemblée nationale et cela devrait refléter sur tout ce qui concerne la femme dans tous les secteurs. Donc, ils ont réussi, les députés ont réussi à faire passer cette loi. Ça n'a pas été facile, certes, mais quand même la loi, elle existe et elle va être appliquée à tous les niveaux. Donc, même l'accessibilité aux terres des femmes, elles auront aussi droit à 30%.
Ah bon? Intéressant, oui. C'est bien ça. Oui. Et au niveau des obstacles qu'elles peuvent rencontrer, la famille, c'est déjà un obstacle en soi, c'est-à-dire que la femme, la maman, elle doit s'occuper des enfants aussi.
Absolument.
Le temps.
Au-delà des problèmes environnementaux dont je viens d'énumérer, il y a le problème d'instruction aussi qui passe par l'alphabétisation. Le constat, c'est quoi? C'est que elles sont à peu près à 78% vivant dans le milieu rural. Les femmes maliennes.
Une grande majorité.
Voilà, une grande majorité.
Et on a 52%. Aussi une majorité de femmes peut-être analphabètes encore.
Oui, on peut compter à peu près aux environs de 60% d'analphabètes.
Il y a des progrès qui ont été réalisés quand
Absolument. Il y a beaucoup d'ONG qui ont travaillé, qui travaillent depuis plus de 30 ans à aider ces femmes-là à prendre leur destin destiné en main à travers des séances d'alphabétisation qui ont été installées dans les communes. L'État même s'est impliqué dedans. Et je pense qu'avec tous ces efforts fournis là, elles arrivent maintenant à avoir un peu un horizon meilleur.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'affaires un petit peu comme dans le reportage du Bénin là, où il y aurait des centres d'écoute et où les femmes pourraient aller porter plainte par rapport au fait qu'elles n'ont pas hérité comme cela devrait l'être?
Pas spécialement des centres d'écoute pour des situations comme ça. Je sais que les centres d'écoute qui ont été initiés pour les femmes et en matière de droit au Mali, c'était les violences faites aux femmes.
Mais c'est une violence, ça aussi, déshériter
une femme. C'est une violence, mais je ne pense pas que ces femmes-là, ces centres-là traitaient directement de ces violences-là, pas, pas sous ce angle-là.
Donc on a aussi encore un manque de sensibilisation peut-être au Mali par rapport à l'accès à la terre pour les femmes.
Tout à fait. Parce que la succession, nous avons tous, comme le Bénin d'ailleurs, on a tous des lois qui ont été faites depuis les indépendances et qui n'ont pratiquement pas vu de changement, de grands changements depuis plus de 50 ans maintenant.
Ça n'avance pas bien vite.
Si je ne pouvais.
Plusieurs marques de vêtements ont vu le jour récemment en Guinée. Mais pour la plupart, l'impression des t-shirts notamment se fait avec de petits moyens. Ce travail est le quotidien de certains jeunes, dont Cabinet Diawara, qui propose en ligne 2KD, sa marque qu'il a créée avec peu de moyens. Notre correspondant Zakaria Camara lui a tendu le micro.
On n'a pas tout ce qu'il faut pour travailler sur la marque, telle que la broderie et tout ça.
Tout qui dit se vend en ligne. La marque que porte le Guinéen est le fruit d'une histoire d'amour, celui d'un fils pour sa maman.
Communément, on l'appelle Maman Kadi, sinon c'est Kadia Tudjani, son nom, et moi c'est Cabinet Diawara, donc voilà, ça fait Kadia Tudjani, ça fait Kadé, et Cabinet Diawara aussi, ça fait Kadé.
Daouda Sissi est responsable des productions de RJV, l'une des premières marques Made in Guinée, ici comme avec de nombreux noms des marques de vêtements, l'envie de vendre la Guinée a pesé.
C'est dit qu'il fallait qu'on crée une marque parce qu'on a vu nos voisins de l'extérieur qui ont créé une marque similaire. RGV, ça veut dire rouge, jaune, vert. C'est le drapeau guinéen.
En Guinée, créer sa marque de vêtements est facile, mais la vendre n'est pas de tout repos.
C'est toujours pas facile, hein, je peux vous dire. Surtout en Afrique, créer ce genre de projet-là, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et jusqu'à présent, on en demande. RGV prend de l'ampleur au moment où il y a la CAN, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN ou bien les compétitions de la CAN.
Portée de Made in Guinée, l'idée passe plutôt bien chez les jeunes.
Je crois que c'est une belle initiative qui doit être encouragée. Si les autres pays le font, pourquoi pas la Guinée? Et puis ça donne de l'emploi à la jeunesse.
La plupart des marques sont imprimées sur des t-shirts et des casquettes, mais elles ne sont pas connues du grand public. Il faudra attendre encore et encore avant de voir le grand succès de Made in Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Si la jeunesse pouvait.
Kadiatou Traoré, on revient sur notre sujet, les femmes rurales et la production alimentaire en Afrique, les progrès, les obstacles. Alors, des recherches indiquent que lorsque les femmes se voient confier une plus grande part de revenus, la nutrition infantile, la santé et l'éducation s'améliorent. Ce qui paraît tout à fait logique, en fait, hein, c'est pas la peine de faire des études.
Oui,
pour... C'est tout à fait logique, mais ces études sont absolument nécessaires pour qu'on prenne conscience de la chose. Et ce genre d'études, on les fait depuis quelques dizaines d'années déjà, on a réellement pris conscience de la chose, ce qui veut dire que logiquement, à partir de maintenant, ça doit progresser, même peut-être beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de programmes qui sont en place, il y a énormément de gouvernements, d'organisations, Nations Unies, etc., qui sont conscients de tout cela et qui mettent des choses en place. Est-ce que vous auriez des exemples à nous citer? Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une dame, je crois, qui est la seule à faire, je ne sais plus...
Des sémences, la production de la sémence,
oui,
des graines au Mali.
Oui.
Elle s'appelle Madame Koulibaly Maimouna Sidibé. Elle vient d'être primée par le Food Prize, Africa Food Prize. Elle a eu un prix de 100 000 dollars qu'elle doit partager avec une Kenyane. Et elle fait de la recherche pour améliorer les sémences et elle les revend à un prix assez abordable aux paysans.
Et vous disiez qu'en fait, c'était quasiment la première femme qui s'est lancée dans le business des semences,
oui,
c'est ça?
Elle est la première femme qui s'est lancée dans ce business au Mali, et son entreprise s'appelle Mali Kaba. Et ça fait quelques années déjà qu'elle y travaille. Elle a construit des magasins, elle a des dépôts de vente un peu partout en République du Mali. Et elle a beaucoup tenu, elle fait de la recherche aussi, beaucoup de recherche, parce que son histoire, c'est quoi? C'est que son mari est agronome et il a eu la chance de venir étudier ici aux États-Unis. Et elle a suivi son mari. Et quand elle était là, elle a vu que ici la production était améliorée parce que ils avaient de bonnes semences. Donc elle s'est inspirée de cette expérience pour dire et pourquoi ne pas aller initier ça dans mon pays pour voir. Ouais. Elle l'a fait et c'était
et ça marche.
Ça marche très bien. Donc d'autant plus qu'elle vient de gagner le prix. Un prix africain. Ouais. Et il y avait à peu près 3000 personnes qui avaient compéti pour le prix. Mmh. Et elle a été sélectionnée.
Donc ça là, elle a vraiment agi pour la sécurité alimentaire.
100 000 $ quand même, 50 000 $ chacune.
Et c'est nécessaire, nécessaire pour tout ce gros travail. Hein.
Elle est interviewée sur ça. Mmh. Elle a vraiment bien accueilli son prix. Elle dit que ce n'est pas la première fois qu'elle recevait un prix. Ouais. Elle en avait reçu, mais c'était beaucoup plus petit que celui-là. Mais ce prix-là est très important pour elle parce qu'elle était juste en phase d'être découragée de ses activités.
Et c'est motivant. Entre parenthèses. Le haricot mungo est un ingrédient courant de la cuisine asiatique utilisé cuit ou cru, notamment sous la forme germée. Ce haricot a des propriétés fortifiantes. Au Burkina Faso, de plus en plus de cultivateurs se lancent dans sa production, nous dit notre correspondant Zoumana Wonogo, qui est allé à la rencontre d'agricultrices dont Sophie Kabouré.
Ça donne beaucoup de la nourriture. On a eu beaucoup de l'argent et on a beaucoup de joie. Avec l'argent là, l'argent de mon bin là, je vais aller payer les frais de la scolarité des enfants et acheter de la nourriture pour manger.
La présidente de l'association des producteurs de mung bean lance quant à elle un appel aux femmes à se lancer dans la production du mung bean. La présidente Asita Kouré.
L'appel que j'ai aux autres femmes du Burkina, je les invite à essayer le mung bean. Parce que moi j'ai essayé. Tu sais ce que c'est beau. Parce que quand on essaie, on reste. La pauvreté a un visage féminin. Donc, ça fait que ça nous aide beaucoup à aider nos maris à s'occuper des enfants.
En écho, la représentante du PNUD au Burkina, Mme Metsi Maketa, retient plusieurs valeurs et vertus au mung bean. On écoute.
On nous a dit que la plupart des femmes qui travaillent sont des femmes démunies. Donc, c'est ce principe de donner la dignité à la femme. Deuxième chose, c'est que c'est la dignité à travers quelque chose qui va valoriser toute la famille. C'est une filière aussi qui tient compte de ce qui est la variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le mung bean, on sait qu'on peut produire toute l'année.
C'est tout cela qui a valu au promoteur Victor Tchendrebegodi Larlé Naba de recevoir dans sa ferme le corps diplomatique accrédité au Burkina et le message de félicitations du gouvernement burkinabé. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Traoré, vous avez écouté ce reportage de Zoumana Wonogo.
Intéressant.
Oui, vous connaissiez ce haricot?
Non, pas spécialement.
Et voilà, c'est une nouveauté aussi, en fait. Ça rejoint ce que vous disiez au sujet de cette dame, hein, des semences, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver nouvelles méthodes. Et ce serait aussi quelque chose de très nourrissant. Ça fait un petit peu penser, il est vert, il est rond, ça fait un petit peu penser au pois chiche. Mais c'est pas le pois chiche. Okay. Le pois chiche, il vient pas de la même région. Je crois qu'il vient plutôt de Grèce ou de Turquie.
Oui. J'ai autre chose à signaler, parce que cette année-là, ONUFEM a lancé un outil de travail pour les femmes rurales du Mali, et qu'ils ont appelé Women, Buy for Women, BFW, et qui est quoi? Qui est un outil qui est destiné à augmenter leur productivité, des femmes agricoles, et pour ce fait, c'est au Rwanda seulement que cette chose a été initiée. Okay. Donc du coup, le Mali devient le deuxième pays qui va recevoir ça, et ça va permettre aux femmes d'avoir accès au marché financier rapidement, d'avoir des informations autour d'eux, des réseaux qu'elles pourront utiliser elles-mêmes. Qui va marcher avec les téléphones et dont elles auront à porter et voir...
À portée de main, une clientèle, une certaine clientèle.
Et communiquer directement sur quels besoins... Absolument. Donc ça, c'est déjà lancé, ils ont déjà signé et ils vont commencer à travailler avec des coopératives de femmes. Et il y a la coopérative des femmes rurales du Mali, dont j'apprécie vraiment les activités. Ils sont en train de fêter la journée de la femme rurale à Bamako spécifiquement. Mmh. J'en parle et puis c'est une grande attente pour ces femmes qui évoluent dans ce secteur. Je les ai interviewées, elles disent qu'elles sont vraiment... Ça leur donne la parole, la voix de rapprocher les décideurs et puis de parler de leurs problèmes.
Très rapidement, Kadiatou, on arrive au terme de l'émission. Vous êtes allée au Maroc il y a quelque temps. Il y avait une grande rencontre là-bas justement par rapport aux femmes autour de l'agriculture. Vous voulez nous en parler?
Oui, ça a été lancé par Believe in Africa, une organisation non gouvernementale africaine qui est basée ici à Washington DC. Le forum, c'était sur femmes et agriculture et qui a regroupé 300 participants à peu près. Et il y avait les Maliennes là aussi et ça concernait aussi les femmes du monde rural. Et donc on a parlé de progrès et des problèmes, des obstacles auxquels elles sont confrontées et dans ce secteur. Et on a été vraiment émerveillés de voir ces femmes africaines venir partager leur expérience. Mm-hmm. Il y avait une dame, par exemple, qui venait du Sénégal, qui évolue dans le riz et qui a pu avoir augmenté sa production de riz en hectares. Et c'était vraiment fantastique.
C'est une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Et aussi, chez nous, au Mali, il y a une femme aussi qui est là, qui a initié l'agriculture hors sol et qui fait des cultures partout où elle a de l'espace et dans les bacs. Et la pisciculture aussi. Mm-hmm. Et elle a commencé.
Donc il y a des idées.
Absolument.
Énorme,
et donc il y a eu beaucoup d'échanges dans ce cadre et le forum a été institutionnalisé. Mm-hmm. Déjà du coup, les Marocains ont dit que c'est très intéressant et ils veulent vraiment partager cette expérience. Le Maroc maintenant qui est en train de regarder un peu sur la coopération Sud-Sud parce qu'au Maroc, les Marocains produisent tout. Ils ont quand même des moyens de tout faire. Et maintenant, ça, l'Afrique est un grand marché pour eux de consommateurs. Et donc... Le rendez-vous a été donné pour le mois de mai prochain 2018.
Merci beaucoup, Kadiatou Traoré. À très bientôt, au revoir.
Merci à toi aussi, Nathalie. Merci de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de venir parler des femmes.
Arrête. lovers to the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and need to talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands, stop up and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say.